Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à tous, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Si vous voulez me prêter vos oreilles avec des histoires de lits. Alors, c'est des histoires de lits à partir d'un petit livre qui s'appelle « Histoire de lits » d'Isabelle Rossignol. Le lit, lieu du désir et des rêves, des ruptures et des réconciliations, de la naissance et de la mort. Lieu de l'intimité fondamentale que ces récits explorent dans de courtes scènes concentrant un moment de vie. La mort solitaire de Madame Simone, un soir son teckel à ses pieds, l'herbe verte sur laquelle s'allongent les amants, lit campagnard du grand-père qui accueillait les premiers jeux d'amour, le lit est mémoire, mémoire des vies, des émotions, de l'instant ou de l'essentiel. Née en 65, Isabelle Rossignol vit à Paris. Formatrice en écriture dans les entreprises, elle est aussi animatrice d'ateliers d'écriture, productrice d'émissions et auteure de pièces radiophoniques pour France Culture. Elle a publié au Rouergue « Petit mort »,« Vomica » et « Une nuit ordinaire ». On est ce qui va avec son lit, ce qui se dessine sur le visage vient du lit, à la fin, on devient son lit. En introduction. Pendant 3 ans, chaque matin, j'ai vu entrer Madame Simone, rouge étincelant aux lèvres, cheveux parfaitement coiffés et laqués, son vieux mais beau corps moulé dans une robe noire qu'elle recouvrait d'un châle de couleur, chaque matin, elle traversait le bar pour retrouver sa table et commander un café crème au moment où je buvais le mien. À 7h30, Monsieur Léo, qu'elle appelait simplement Léo, entrait et l'embrassait de toutes ses lèvres qu'il retirait immanquablement recouvertes de rouge. Il revenait du grand hôtel où toute la nuit, on le payait pour être veilleur. Lui aurait préféré y veiller sur sa femme, car il savait qu'elle allait bientôt mourir. J'avais proposé d'aller passer mes nuits au chevet de Madame Simone. J'arrivais à 20h et la trouvais au lit, entourée de revues en tout genre, son teckel à ses pieds. Je m'installais dans le petit lit, une place de Monsieur Léo, et nous mangions les plats du traiteur chinois qu'elle me demandait d'apporter mais qu'elle ne touchait presque plus. Après, nous tentions l'une et l'autre de dormir. Elle est morte dans son lit, un soir, avant que je n'arrive. Monsieur Léo et moi, nous nous sommes assis à cet endroit que le teckel avait abandonné pour se rapprocher du visage de sa maîtresse. Sur ses lèvres, Madame Simone avait son rouge étincelant et sur les siennes, Monsieur Léo en gardait quelques traces. J'avais rencontré un homme grand, mais un petit, plus petit, que jamais je n'aurais pu l'imaginer, était à l'intérieur du grand. Celui-là croyait qu'il devait me faire plaisir à tout prix, à ce que je disais, il acquiesçait. Ce que je voulais, il me le donnait. Ce que je n'aimais pas, il apprenait à ne pas l'aimer. Cet homme-là ne savait plus où se mettre, et à force, je ne savais plus où le mettre moi-même. S'il avait pu, il se serait fait moi, et un jour, nous n'aurions pas su qui de nous deux avait disparu. Comment faire comprendre à un homme qui veut être miroir que l'on ne veut pas de miroir? Ou bien, alors, un miroir qui nous dépasse? Moi, je veux un homme qui me déborde, de la tête et des pieds, des bras, des jambes, des doigts. J'aime quand je pose ma main sur celle de l'homme et que la mienne est petite. Un homme maigre, je ne peux pas. Lui m'avait paru si grand. 3 têtes de plus que ma taille. Un Normand, un viking, disait-il. Mais le petit avait eu le dessus. Toute la place avait prise, celle du cœur. Tant mieux, me dira-t-on. Eh bien non, son lit aussi était grand. Non, pas grand, immense, mais trop haut, trop mou, comme son cœur. Oui, c'est vrai que son cœur était mou, comme son lit, trop. Le matin, pendant les vacances, une fois que leurs parents étaient partis au travail, j'allais chez mes cousines. Aussitôt que j'arrivais, on transformait les trois chambres de la maison en appartements. Sur les portes, on installait ensuite les sonnettes en carton que l'on avait fabriquées, on écrivait nos noms de femmes mariées et on commençait à jouer. Mais très vite, on trouvait que la cuisine, les courses et le ménage n'avaient rien de très amusant. Alors on allait dans la salle à manger, on fabriquait un comptoir et on disait qu'on était dans un bar imaginaire. C'était la nuit. Devant le comptoir, il y avait Nelly et moi. Derrière, il y avait Patricia. Nelly était une prostituée. J'étais un homme et Patricia était la serveuse. Nelly et moi, on parlait d'abord de tout et de rien en se faisant servir à boire. Puis Nelly devenait de plus en plus entreprenante. Elle voulait que je la prenne. J'étais un homme, alors j'essayais de ne pas trop rapidement tomber dans ses bras. Je me tournais vers la serveuse pour bavarder un peu, mais je me rendais compte qu'elle aussi me demandait. Patricia, Nelly, je ne jouais plus. L'une après l'autre sur leur lit, elles me prenaient, me caressaient. Toute la matinée, elles étaient femmes. Elles embrassaient ma poitrine et ma bouche, elles embrassaient mes pieds et mes bras, mon cou et mes épaules. Elles embrassaient mon ventre, ce ventre que le soir dans le bain, elles allaient montrer en disant qu'il était gros, en disant qu'il fallait que je perde du sang si je voulais maigrir. Je ne savais pas, je remettais la robe achetée par ma mère, puis je traînais dans leur ombre de maigre. Elles me laissaient jouir, dire les mots des hommes et me perdre dans leurs cheveux blonds. Je ne savais pas leurs yeux si grands. Je ne savais rien, le péché pourtant n'était que sur ma peau. Lorsque 2 heures sonnaient, tout était en ordre. Ma tante déjeunait au salon et nous regardions toutes les quatre un téléfilm. Et je pensais, sous leur robe, elles sont les mêmes qu'au-dessus de leur robe. Et je pensais, au-dessus de ma robe, je ne suis pas la même que sous ma robe. Le couvercle de la poubelle s'était refermé, aussi mollement que d'habitude. La chasse d'eau s'était vidée, mais remplie selon son rythme coutumier. Sous la douche, elle décidait qu'il n'y aurait plus de prochaine fois. À genoux, les mains à plat, les fesses tendues sur un vieux lit que les voisins avaient voulu jeter par habitude, le visage face au mur, à regarder et à compter le nombre de fleurs oranges et grosses comme le point dessiné sur la tapisserie, à attendre que se répande l'odeur de plastique lorsqu'il déchirera le sachet des capotes qu'il prenait toujours bleu transparent, fermer alors les yeux, se préparer à recevoir ses 2 mains sur les hanches, commencer à se répéter la liste de ce qu'il aura à faire après, sentir malgré tout la douleur, vouloir arracher un à un les cheveux qui recouvrent cette tête qui commence à s'agiter dans son dos, même s'ils ne la touchent pas, ne l'effleureront à aucun moment, haïr ce corps arc-bouté, ses mains qui empoignent de plus en plus fermement ses hanches, haïr sa bouche, cette bouche aussi énorme que le temps qui ne passe pas, et d'où jaillira finalement le bruit rauque qu'il finit toujours par laisser échapper, ce bruit qu'elle ne déteste pas, parce qu'il signifie la fin, mais qu'elle aimerait ne plus entendre parce qu'il lui rappelle, oui, lui rappelle chaque fois qu'à la honte d'accepter un homme que l'on n'aime plus, il n'y a pas de fin.
Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat, je cherche en vain la portée exacte, je cherche en vain le Brexit, je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrangiste.
Lorsque je suis entré dans le cimetière, mon collant s'est accroché à une branche de genêt. Une infirme et inoffensive tache blanche est d'abord apparue derrière mon genou. Mais alors que nous avancions entre les tombes, à la recherche de celle de Georges Braque, la tache a pris la taille d'un petit pois. Je ne marchais plus qu'en pensant à mon collant. Devant la tombe du peintre, je ne voulais que retourner à la voiture et me cacher. Amusé, Luc a saisi ma main et il m'a tiré jusqu'à une haie que de mauvais gré j'ai enjambée après lui. Derrière mon genou, il y avait désormais un trou de la taille de deux doigts. En bas, la mer se jetait contre les falaises. Sous nos pieds, l'herbe verte faisait comme un lit. Luc m'a pris dans ses bras, puis il m'a allongé sur le sol. Autour de nous, quelques visiteurs regardaient le paysage. Luc s'est étendu à mes côtés. Entre le collant et la peau, il a glissé son index. J'ai fait mine de reculer ma jambe, mais à mesure que ses autres doigts, mais puis sa main en entier, se glissaient et montaient le long de ma cuisse, la caressaient, montaient encore, tiraient à chaque passage sur le collant, jouaient avec ce qui n'était plus, me semblait-il, capture de lambeaux de voile. À mesure que les doigts se frayaient un chemin et parvenaient à hauteur de mes fesses. J'étais gagnée par le rire et l'impatience que le collant se déchira davantage. J'étais prête à le déchirer moi-même et, ce genêt qui s'était trouvé à l'entrée du cimetière, je le bénissais.
Ont pris le ferryboat de leur lit par le hublot, ils regardent la côte, ils s'aiment et la traversée durera toute une année, ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69
J'ai visité le château de Versailles il y a bien des années. Aujourd'hui, au centre de la galerie des glaces, je voudrais mettre un lit et rester seule avec tous nos reflets. Je me regarderai entrer dans le lit, je me coucherai et j'observerai ce que donnent mes cuisses, mon dos, mes épaules, mes seins et mes fesses lorsqu'ils sont dans un lit. Pour chaque partie de mon corps, je voudrais une image. Je voudrais me confondre, puis laisser les miroirs me renvoyer à ce que je ne sais pas du lit, ce que je ne sais toujours pas de moi. Me perdre dans ce lit, jusqu'à ce que j'ai retracé le contour de tous les autres et jusqu'à la fin. Je les ai oubliés. Avoir un lit pour refaire, réinventer mon corps dans un lit, mon visage dans un lit. Je voudrais me démultiplier et m'aimer à l'infini. Je voudrais que ce lit ne s'arrête jamais de grandir et que je m'allonge avec lui, que je trouve le temps d'aimer le lit, de signer le lit. Je voudrais avoir un lit rare, je voudrais un lit pour moi, entrer et me déposséder de tous les autres. Je voudrais pouvoir me taire dans un lit, m'y mettre comme je me mets à table, y entrer comme j'entre dans mon bain. Je voudrais ne plus jamais grimacer dans un lit. Je voudrais m'oublier, me regarder, jusqu'à ce que le lit et moi devenions une forme unie et abstraite. Que mon nom soit écrit sur un lit et reconnaître qu'il est le mien. Très chaud. J'avais mis ma robe blanche décolletée, un peu pour lutter contre la chaleur, un peu pour lui plaire. Dans le bus qui nous conduisait au musée, tout comme depuis quelques semaines, je sentais que les regards qu'elle posait sur moi n'étaient plus ceux d'une amie et je ne cherchais pas vraiment à les fuir. Au fil de la visite, parce que l'on avançait plus lentement que les autres, nous nous étions éloignés du groupe et retrouvée seule dans une salle carrée, petite et très lumineuse. Hormis le gardien qui somnolait sur sa chaise, il n'y avait qu'un lit, l'un de ces vieux lits de château à quatre piliers, surmonté d'un ciel à fond plat, auquel étaient rattachés de lourds rideaux. Ceux-ci avaient été taillés dans un tissu de satin vert que l'on retrouvait sur l'ensemble des murs, et bien que le lit ait été placé au centre de la pièce, il n'était ouvert que sur un côté. Nous nous étions arrêtés. À voix haute, elle avait lu les quelques commentaires inscrits sur le panneau près de la fenêtre. Nous n'étions séparés du lit que par une grosse corde en velours rouge. Sans me quitter des yeux, elle s'était mise à tourner autour du baldaquin. Parfois, elle s'arrêtait, posait une main sur la corde de velours rouge, me souriait, retenait sa démarche intrigante, s'arrêtait de nouveau. À l'endroit où les rideaux s'entrouvaient, elle avait ri d'une manière que je ne lui connaissais pas. Ces rideaux de satin qu'elle me suggérait du regard, j'aurais voulu pudiquement l'en recouvrir, comme l'on dépose un drap sur les épaules d'un corps dont on découvre gêné qu'on ne le désire pas. Nous avions rendez-vous à 20h en bas de l'immeuble de Sylvie qui nous prêtait son appartement. Un studio mal éclairé, humide et chaud. Il m'attendait à l'heure dite, beau comme à son habitude. J'avais pris un réveil pour ne pas être en retard le lendemain matin. Dans un sac, j'avais mis quelques vêtements de rechange. Lui aussi avait un sac, un sachet de plastique sur lequel une marque quelconque était écrite. Beau comme à son habitude. Mais ce soir-là, je restais de bois. D'abord, il en a ri. Ensuite, il s'est levé et est allé chercher dans la poche de ses jeans un morceau de haschich marocain. C'est là qu'un premier cafard est passé près de mon pied. Il l'a tué. J'étais en train d'éteindre une cigarette lorsqu'un deuxième cafard est apparu sur le lit. L'animal s'est approché de ma main droite. Mais aussitôt qu'il a vu mon doigt bouger, il s'est enfui vers le dessous du matelas. Le lit était de style marin, un rectangle de bois en pain naturel dans lequel un matelas, une place était encastrée. Dans sa course, il a rencontré un troisième compère qui, sans doute averti du danger, s'est esquivé à son tour. Tous les deux se sont glissés entre le rectangle de bois et le matelas. Lorsque David a enclenché la cassette vidéo qu'il avait sortie de son sachet plastique, je me tenais debout à côté du lit. Le générique, le titre de série X et les cafards qui s'agitaient en tous sens sous le matelas me sont apparus, je crois, en même temps. Les vendredis après-midi, je quittais l'école à 14h, si bien qu'à 14h15, je pouvais être chez moi. Ces jours-là, pourtant, ma mère m'interdisait de rentrer tôt. C'était son après-midi et personne ne devrait la déranger. Le vendredi, j'avais donc pris l'habitude de rentrer à 17h30. Ma mère était repartie à son travail et je pouvais monter dans ma chambre. Mais je passais d'abord par la sienne. Le lit était toujours impeccablement fait, même si parfois des plis étaient visibles sur l'édredon vieux rose. Chaque objet était à sa place. Des bibelots sur les étagères, aux livres fermés sur son marque-page, rien ne semblait anormal. Un jour, j'avais ouvert la petite porte de la table de nuit. À l'intérieur, il y avait des serviettes de bain de petite taille, dont le motif était semblable pour toutes. Des formes géométriques dessinées dans du tissu éponge de couleur bleue ou jaune. Au-dessus de la pile, une serviette bleue avait été dépliée et négligemment rangée. Je l'avais prise, l'avais examinée, l'avais sentie. Elle était légèrement humide, mais ne présentait, elle non plus, rien d'anormal. Le soir, j'avais demandé à ma mère pourquoi elle gardait des serviettes à côté de son lit. Comme à son habitude, elle avait évité de me répondre, et quelques minutes plus tard, je l'avais entendu ouvrir la porte de sa table de nuit et je l'avais vu se diriger vers le panier à linge.
Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi les poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi.
Ce n'était pas que j'étais devenue paresseuse, mais je pouvais rester des jours entiers à ne rien faire. Je ne lisais plus, ne sortais pas, avais abandonné mes cours. J'attendais seulement l'heure où j'ouvrirais le canapé en faisant glisser de la droite vers la gauche la fermeture de plastique blanc. C'était un canapé de couleur grise dans lequel deux pièces de tissu en forme de triangle, l'une jaune et l'autre rouge, avaient été cousues à l'intersection du siège et de chacun des bras. Sur le dossier, une énorme tache de café avait laissé une auréole. Je m'obligeais à ne pas l'ouvrir avant 20h. Jamais je n'ai voulu me coucher par dégoût de moi-même. Je ne cherchais pas non plus un isolement. La tête toujours en dehors des draps, posée sur un oreiller que je prenais soin de tapoter afin qu'il prît la forme que je désirais. Je voulais y rester pensante, savourer la réussite de ne pas être tout à fait anormale, puisque cette nouvelle et inutile journée, je ne l'avais pas passée au lit. Le sommeil venait assez vite, me gardait endormie jusqu'au lendemain matin, 7h30. Je me levais aussitôt, pliais le canapé, faisais glisser dans l'autre sens la fermeture de plastique blanc, et j'attendais le soir.
toi, écoute ma prière. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche.
C'est un homme qui se couche et qui attend. Il n'entre que dans le noir. Rapidement, il se met sous les draps, s'allonge sur le dos et croise ses mains derrière sa nuque. Ce n'est pas un rituel, mais sa façon d'entrer dans le lit lorsqu'une femme s'y trouve étendue. Aux côtés de la femme, il ne bouge pas. C'est elle qui doit tourner la tête, son corps, et se mettre à chercher sa bouche. Il la donne facilement, la colle à celle de la femme et ne la quitte plus. Son corps s'en émeut. Il s'offre et il attend. Si elle veut prendre ce qu'il lui offre, la femme doit grimper sur lui, mais elle ne peut se décoller de sa bouche, tant il ligote sa large langue de la sienne. Les mains toujours croisées derrière la nuque, solidaires d'une tête qui ne bronche pas. Pas un son, pas un souffle, sa langue tendue est le seul mouvement de son corps. Parfois la femme jouit, parfois la femme ne jouit pas. Lui, jamais.
Je sens le boule des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire calabringue, ton amour m'ont épuisé.
Merci, chers auditeurs. C'était Histoire de lit d'Isabelle Rossignol, à l'animation Jasmine. Et merci Stéphane à la technique. Grâce à lui, on fait de belles émissions. Merci et joyeuses vacances.
Sache que ce quelques angles pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue. Je sens le boom et le bang agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, peut-être pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang. Il pourrait te faire payer toute cette torture cinglée que tu m'as fait endurer. Je sens des boum et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire de bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, des flashbacks s'enchaînent. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés.